Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des tests de dépistage du Covid-19 réalisés en moins d'une heure. La PHP les démarre aujourd'hui en Île-de-France. La promesse est importante et les essais prometteurs, vous l'entendrez.
Ces tests devraient améliorer la gestion de la crise sanitaire. La Cour de justice de la République étudie justement le dossier aujourd'hui.
Oui, elle auditionne trois médecins qui accusent des responsables politiques de ne pas avoir correctement protégé la population. Nous entendrons leur avocat dans le journal. Retour aussi sur l'audience d'hier au procès des attentats de janvier 2015. La Cour a évoqué le sort de Frédéric Boisseau, première victime des terroristes. Souvenir à suivre.
Et puis nous irons ensuite en Ukraine, refuge des opposants biélorusses.
Et puis nous irons au Soudan, Guillaume, où des inondations monstres mettent en péril les célèbres pyramides de Meroé. Il y a la course au vaccin et l'ambition dans le même temps de dépistage rapide du Covid-19. À partir d'aujourd'hui, il sera ainsi possible de connaître le résultat d'un test de dépistage en moins d'une heure. Une possibilité qui concernera en tout cas dans un premier temps quelques centaines de personnes via l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ces tests dits antigéniques sont déployés en Île-de-France ce mercredi quand, dans le sud de la France, au CHU de Montpellier, un essai clinique sur des tests salivaires se montre lui très prometteur, Aurélie Kiefer.
On prélève un peu de salive, on fait chauffer les prélèvements, on les met en contact avec un réactif. Moins d'une heure plus tard, voilà les résultats. Si c'est jaune, c'est positif. Ce test salivaire est non seulement plus rapide, mais aussi plus facile à réaliser que les actuels tests PCR. Le professeur Jacques Rennes, responsable du département des maladies infectieuses du CHU de Montpellier.
On n'utilise pas de matériel supplémentaire de type écouvillon. C'est pas dérangeant comme un prélèvement nasopharyngé où on est obligé d'introduire cet écouvillon profondément. Et donc, ça expose moins aussi les personnes qui font la réalisation de ce test en face de la personne testée. La demande en réactif est moindre, le coût aussi est moindre. Donc, il y a beaucoup d'avantages en termes de réalisation puisque l'appareillage pour le réaliser aussi est assez simple puisque c'est une machine portable. Et donc, on n'est pas en nécessité d'être dans un laboratoire de biologie médicale. Par contre, l'analyse impose quand même une certaine manipulation et donc une personne habilitée pour le faire. Donc, ce n'est pas un autotest. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette machine donc, qui permet de chauffer ces tubes dispose de 24 puits, c'est-à-dire qu'on peut faire simultanément le traitement de 24 prélèvements salivaires.
Selon les résultats préliminaires, ces tests sont très sensibles et il y a moins de 5% de faux positifs. On devrait en avoir la confirmation d'ici la fin du mois.
Lui a réussi à réaliser un test en quelques heures. Fonction ministérielle oblige. Jean Castex est négatif au nouveau coronavirus. Le Premier ministre avait passé l'après-midi de samedi dernier avec le directeur du Tour de France dans sa voiture. Christian Prudhomme a depuis été testé positif. Par précaution, ce matin, le Conseil des ministres se tiendra donc à distance par visioconférence. Idem pour le séminaire gouvernemental qui se tiendra lui autour du thème de la sécurité. Pendant ce temps ce matin, à la Cour de justice de la République, le travail de trois responsables politiques sera analysé. Olivier Véran, actuel ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui l'a remplacé, et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui font l'objet tous trois de 9 plaintes. La Cour débute donc son travail aujourd'hui avec l'audition de 3 médecins. Ils accusent les ministres de s'être volontairement abstenus de prendre des mesures pour combattre le virus. Les masques, par exemple, étaient-ils suffisants, nécessaires au début de la crise? Ces trois soignants sont appelés en tant que simples témoins aujourd'hui, sans se porter partie civile, ce que regrette leur avocat, maître Fabrice Dividio.
C'est une originalité très française, en fait, de la Cour de justice de la République, où on est quand même dans une justice de classe, on est quand même dans une justice feutrée, on est dans une justice spéciale, on ne va pas traiter les trois prévenus, qu'on ne qualifie même pas encore de prévenus d'ailleurs. On ne va pas traiter les trois prévenus comme on traiterait un citoyen lambda devant le juge d'instruction.
Alors, au regard de l'étrangeté de cette procédure devant la Cour de justice de la République, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que les choses vont vite et que finalement c'est bien que vos témoins soient auditionnés?
Je ne m'en plaindrai pas, évidemment que c'est bien. Je veux dire, ce n'est pas parce que le système est imparfait qu'il faut le rejeter en bloc. Et je salue la circonstance que la commission des requêtes, qui est cette première commission, ce premier filtre, a quand même dit qu'il fallait enquêter. Et finalement, elle l'a dit vite. Elle l'a dit en 3 mois, c'est la première fois de l'histoire que des ministres sont ainsi effectivement mis en cause dans une affaire qui n'est même pas encore terminée. Regardez, prochainement s'ouvre le procès d'Edouard Balladur pour l'affaire Karachi. Vous avez vu le temps que ça a mis. Alors que là, nous sommes allés extrêmement vite, signe que quand même la justice n'a pas envie de faire du favoritisme, et c'est une très bonne chose. Elle a envie de se montrer la plus impartiale possible, parce qu'à un moment donné, le scandale est à son paroxysme.
Un des propos recueillis par Tara Schlegel, qui a signé ce matin le reportage de la rédaction complet sur ses premiers témoins entendus. Il est à retrouver dès maintenant en podcast et sur notre site franceculture.fr. Maître Dividio, qui évoquait à l'instant l'indépendance de la justice, et bien sur un terrain plus large, un rapport parlementaire doit être rendu public aujourd'hui, rapport sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, le fruit d'un travail de plus de 6 mois à l'initiative de la France Insoumise. Les témoins survivants de la tuerie de Charlie Hebdo se sont succédés à la barre à la cour d'assises spéciale de Paris hier. Une cour qui juge, je vous le rappelle, 14 personnes accusées d'association de malfaiteurs ou de complicité avec les auteurs des attentats de janvier 2015. À la barre donc hier, des témoignages éprouvants et puis le souvenir aussi des disparus. Le premier d'entre eux s'appelait Frédéric Boisseau, responsable d'opérations pour la maintenance du bâtiment Florence Turme.
On pouvait parler de tout avec lui, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, un papa formidable pour ses 2 garçons. Tous les week-ends, il y avait quelque chose à fêter, c'était gai, ça riait, on était heureux. Catherine, l'ancienne compagne de Frédéric Boisseau, est venue témoigner pour que l'on sache, dit-elle, que c'était une belle personne. Il ne méritait pas d'être passé sous le silence de ces attentats. Avant elle, son collègue et ami Jérémy a raconté cette balle tirée par les frères Kouachi à la recherche des locaux de Charlie Hebdo. Le cauchemar aux côtés du blessé, il lui parle, le tire dans les toilettes pour le mettre à l'abri. Je maintenais un point de compression et puis son regard s'est figé. Fredo m'a regardé, dit à mes enfants que je les aime. Fredo, c'est le dommage collatéral, poursuit le témoin. La personne lambda qui n'a rien demandé, c'est aussi le peuple que l'on a oublié. On est dans un pays qui oublie vite, soupire-t-il. Mais comme un écho à ce regret, l'écrivaine Sigolène Vinson, l'une des survivantes de Charlie Hebdo, a dévoilé un tatouage sur son avant-bras gauche, inspiré de Moby Dick. Dans les barques, il y a 12 personnes, précise-t-elle. Ahmed Merabet, le policier abattu par les frères Kouachi dans leur fuite, et Frédéric Boisseau en font bien partie.
Florence Turme, qui suit donc pour nous ce procès des attentats de janvier 2015 à l'antenne et sur franceculture.fr. Aujourd'hui, la cour entendra les personnes blessées à Charlie Hebdo. Elle s'était donné la mort le 21 septembre 2019 dans son école maternelle à Pantin, au nord de Paris. Presque un an plus tard, Christine Renon n'est pas oubliée et le ministère de l'Éducation nationale met enfin ses promesses à exécution. Première réunion aujourd'hui avec les syndicats sur la trop grande charge de travail des directeurs d'école, qui sont souvent aussi enseignants. Pour l'illustrer, Claire Checalini a rencontré la directrice d'une école maternelle au Mets-sur-Seine, en Seine-et-Marne. Voici son reportage.
Il est près de 17h, seuls quelques enfants restent à la garderie de l'école. Fabienne Cru fait une pause entre classe et direction.
C'est très fatigant comme métier, j'avoue que le mercredi après-midi et le samedi après-midi, je dors. Très honnêtement, je dors.
Enseignante en maternelle, elle est déchargée une journée par semaine de ses cours. Cette école de REP, réseau d'éducation prioritaire, compte 4 classes et 89 élèves, une véritable PME à faire tourner.
C'est-à-dire, on fait les inscriptions, on fait la répartition dans les classes, on gère les coopératives scolaires, toutes les sorties, on gère les équipes, on les anime. Et puis, on gère aussi, par exemple, tout ce qui est enfants en situation de handicap. Il faut travailler les relations avec les familles, etc. Et tout ça, c'est du temps pris sur du temps personnel la plupart du temps.
Enfin, pas tout à fait, car il arrive fréquemment que la maîtresse redevienne, le temps d'un coup de fil, la directrice.
Il y a le téléphone dans la classe, les parents appellent pour des urgences, leur enfant est malade, ils appellent pas à 8h30, donc ils appellent c'est 9h, 9h15. En même temps, on perd le fil de ce qu'on fait. Oui, oui, c'est problématique. C'est en ça qu'on dit qu'on a besoin d'une assistance, c'est-à-dire ouvrir la porte, répondre au téléphone. Mais il me semble que, notamment dans un quartier en REP, on peut pas pas laisser l'école, qui est ce dernier lien social, sur répondeur.
Alors, pour ce double emploi, avec 26 ans d'ancienneté...
Et je touche toutes primes confondues, c'est-à-dire la prime REP, la bonification pour la direction d'école et la prime de direction. Je touche 3 030 euros très exactement, net.
Le tout pour 60 heures de travail, précise-t-elle. Une charge qui n'a pas de quoi décourager cette enseignante qui a fait sa 20e rentrée en tant que directrice cette année.
C'était un reportage de Claire Checaglini.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le camp de migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos a pris feu cette nuit.
Et plusieurs incendies se sont déclarés dans et autour du camp. Cela a mené à une grande évacuation chaotique car il héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile. C'est 4 fois sa capacité d'accueil. Elle a déchiré son passeport pour ne pas être forcée à l'exil. L'opposante biélorusse Maria Kolesnikova a refusé de passer en Ukraine comme lui demandaient les autorités de son pays. Elle a été arrêtée, mais ses deux collaborateurs, eux, ont fait le choix de quitter la Biélorussie hier soir, Stéphane Sioin.
Ivan Kravtsev et Anton Radnionkov, les deux membres du conseil de l'opposition biélorusse qui avaient été arrêtés avec Maria Kolesnikova, sont arrivés à Kiev. Lors d'une conférence de presse, ils ont confirmé que la jeune femme avait bien résisté au KGB biélorusse. Et lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils n'étaient pas restés, eux aussi, en déchirant leur passeport, Anton Radnionkov a répondu ainsi. « Vous savez, Maria est un vrai leader. J'aurais été incapable de faire cela. C'est sans doute pour cela qu'elle est un vrai chef et moi, juste son porte-parole. Ce qui est certain, c'est que depuis un mois, l'Ukraine est devenue la principale terre d'exil des Biélorusses qui s'opposent à Loukachenko. Les deux pays sont proches culturellement, pas besoin de visa pour traverser la frontière et l'opinion ukrainienne soutient majoritairement l'opposition biélorusse. » Personnalité politique, activiste des droits de l'homme, membre d'ONG, ingénieur du secteur des hautes technologies ou simple citoyen, ils sont déjà plusieurs centaines à s'être réfugiés en Ukraine. Résultat, 6 ans après la révolution de Maïdan, les réseaux d'ONG et d'activistes ukrainiens qui avaient été le fer de lance de la contestation à Kiev en 2014 reprennent du service. Ils offrent une assistance matérielle, juridique, voire médicale aux Biélorusses qui fuient la répression, dont le nombre pourrait s'accroître dans les jours à venir.
Stéphane Sioin depuis Kiev pour France Culture. Rejoignons maintenant l'Inde où la pandémie de Covid-19 gagne toujours du terrain. En tout cas, les malades affluent dans les hôpitaux, dans des cas plus ou moins graves. Notre correspondant Com Bastin s'est rendu à Bangalore, une mégalopole au sud du pays.
Dans les couloirs du grand hôpital Jain de Bangalore, le docteur Shada est inquiet. Le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter.
Depuis 2 mois, les patients sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, presque tous nos 40 lits équipés de respirateurs sont occupés. Nous essayons d'ouvrir un deuxième bloc pour les malades. Ça m'inquiète parce que nous n'avons même pas encore atteint le pic de l'épidémie.
Directeur du bloc de soins intensifs Covid-19, le docteur Farouk se veut plus rassurant par téléphone. Les hôpitaux ne sont pas débordés, notamment parce que le gouvernement a récemment autorisé la quarantaine à domicile pour les cas les moins graves.
C'est vrai qu'on a de plus en plus de malades, mais le taux de mortalité à Bangalore est à la baisse. Il est aujourd'hui de 1,4% et 80% des patients que nous recevons sont asymptomatiques. Nous les renvoyons en quarantaine chez eux.
Un nombre de cas qui explose, mais une mortalité faible. Ces observations se retrouvent dans toute l'Inde. La hausse devrait se poursuivre alors que métros, chantiers et bars sont à nouveau ouvert. Avec 4,3 millions de cas au moins, l'Inde est depuis dimanche le 2e pays le plus infecté au monde devant le Brésil.
L'Inde et Bangalore, notamment où la vie nocturne reprend, les métros sont de nouveau autorisés. Réécoutez à ce propos la revue de presse internationale du jour en podcast France Culture. Dans le monde, le nouveau coronavirus a fait près de 900 000 morts au total. Notez que cette nuit, les essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés, ces essais ont été suspendus. Le projet est développé par Oxford et AstraZeneca, mais il est apparu une maladie potentiellement inexpliquée chez un des volontaires. Soulignons aussi qu'à cause du virus, la session du Parlement européen prévue la semaine prochaine à Strasbourg est délocalisée à Bruxelles. Strasbourg étant classée en zone rouge actuellement. N'oublions pas le Soudan ce matin aussi. En état d'urgence après les fortes inondations de ces derniers jours, elles ont fait presque 100 morts. Le Nil déborde et emporte avec lui des trésors archéologiques. L'un des sites les plus légendaires du monde est même menacé, Claude Guibal.
Les eaux ne cessent de monter. Le lit du Nil d'ordinaire serpente, large et calme, à un demi-kilomètre de là. Mais les inondations au record qui touchent le Soudan ont fait disparaître les rives. Et ce sont désormais les mythiques pyramides de Méroé qui sont menacées. Sacs de jute posés aux abords, pompes de fortune, les efforts conjugués des agents des antiquités soudanaises et des missions archéologiques étrangères ne faiblissent pas. La situation semble à peu près sous contrôle, mais si les eaux continuent à monter, tous le disent, il faudra en appeler à l'aide internationale pour sauver des eaux l'intégralité du site de Bachraouia. Il contient la nécropole de Méroé et la cité royale des pharaons noirs, les premiers à régner sur la Nubie pendant 6 siècles, depuis l'an 350 avant notre ère. Un empire légendaire, la civilisation méroïtique, un site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis plus de 15 ans, mais épargné jusqu'ici par le tourisme de masse en raison de l'isolement du Soudan. Avec le dérèglement climatique, la saison des pluies est cette année exceptionnellement violente, presque 100 morts, des centaines de milliers de sinistrés, un niveau des eaux jamais égalé au Soudan depuis le début de l'enregistrement des relevés, il y a plus d'un siècle.
Claude Guibal. Excepté des pluies orageuses sur le sud-est de la France aujourd'hui, le temps devrait rester ensoleillé avec 14 degrés ce matin à Brest et Strasbourg, 17 à Bordeaux, 19 à Paris, 25 degrés sous la pluie marseillaise.